Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des prémices de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. J'aimerais déjà qu'on souligne cela. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Mais malgré les conseils de Dieu, écoutez ce qui est dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. J'aimerais ce matin parler sur le thème « Abel doit mourir ». Abel doit mourir. Pourquoi ce thème « Abel doit mourir » ? À la lecture de ces récits, on se rend compte de plusieurs choses. Mais j'aimerais faire ressortir deux. C'est que premièrement, à la fin du récit, il y a meurtre. Il y a cessation de vie. La mort est donnée à quelqu'un. À la fin du récit, il y a homicide. Il y a un homme qui ôte la vie à un autre. Il y a un homme qui décide de mettre un point final à l'existence d'un autre homme. Il y a un homme qui décide de stopper la course de la vie de quelqu'un. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mais une deuxième chose qui ressort, c'est qu'au-delà du simple meurtre, la première partie du verset 8, surtout dans l'original et surtout dans les versions les plus anciennes, nous montre une vérité. Cet acte n'est pas un coup de folie. Cet acte n'est pas quelque chose, une génération spontanée venue subitement. Ce n'est même pas un accident. C'est au contraire un acte pensé, réfléchi et médité. Ce meurtre n'est pas un accident. Ce meurtre, ce n'est pas un coup de folie. Ce n'est pas quelque chose qui arrive et que l'on se demande, qu'ai-je fait ? Utilisant un terme plus savant, les juristes parleront d'un acte prémédité. Ceux qui étudient le droit pénal iront encore plus loin et diront que c'est un homicide volontaire avec préméditation. Dans leur domaine, ils appellent circonstances aggravantes. Il y a mort. Mais il y a mort parce que quelqu'un l'a voulu. Quelqu'un l'a pensé. Une autre version dit, du verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. » Mais comme je le disais, l'original et les textes les plus anciens disent, « Caïn dit à son frère, allons dans les champs. » D'autres versions disent, « Caïn dit à son frère, sortons. » Une autre version dit encore, « Caïn dit à son frère, éloignons-nous d'ici, viens avec moi. » Il ressort clairement que Caïn a voulu soustraire son frère de la présence des parents. Il a voulu qu'il puisse être à un endroit où il serait seul. Caïn adressa la parole à Abel. Une invitation, viens avec moi, éloignons-nous d'ici, soyons à un endroit où on sera seul à seul. Alors que Caïn invite Abel en disant, viens avec moi, allons dans les champs, il a déjà pris sa décision. Il a déjà tout planifié. Abel doit mourir. Quand il s'éloigne, lui, il sait ce qui va se passer. Pauvre Abel, il ne sait rien. Pour lui, celui qui l'invite, c'est son frère. C'est celui qui l'a porté quand il était tout petit. C'est celui qui, au départ, lui a appris à se tenir debout, tout bébé qu'il était. C'est celui qui, au départ, lui a appris à jouer des jeux, toutes sortes de jeux. Pour lui, Caïn et tout, c'est mon frère. C'est mon grand frère. Il ne peut soupçonner le mal. Les voilà en train de s'éloigner du toit paternel. Peut-être, cela n'est pas écrit, que les parents, soit les deux, ou l'un des parents a dû poser la question, « Où allez-vous ?» Caïn, où est-ce que tu amènes ton frère? C'est sûr, il a dû répondre en premier, « Oh, il n'y a rien. On aimerait juste avoir un peu du bon temps ensemble. Et c'est toujours nécessaire de rester à côté des parents. » Alors qu'il s'éloigne du toit paternel, l'un sait ce qui va se passer, alors que l'autre ne sait pas. L'un est vrai, sincère, mais aussi naïf. Alors que l'autre est faux, l'autre est hypocrite, l'autre fait semblant. Chaque pas qu'il est loin de cet endroit, lui, il sait. Quand on va s'avancer, j'arracherai une pierre, je lui donnerai à l'endroit stratégique un bon coup. Abel, allons dans les champs. Pauvre Abel, tu ne sais pas que celui avec qui tu marches a pris une décision. Il a décidé que tu dois cesser d'exister. Pour lui, tu n'as plus le droit de vivre. Abel, tu l'appelles encore mon frère, mais pour lui, tu as cessé d'être un frère. Tu es devenu un adversaire. Et même pire, un ennemi. Oui, depuis quelques heures, après avoir réfléchi sûrement seul dans un coin, Abel a fait le contour de toute la situation. Il a étudié tous les aspects positifs et négatifs d'une situation qui, petit à petit, s'est imposée à sa pensée. Et comme je l'ai dit, il a pris la décision. Abel doit mourir. Qu'est-ce qui vaut à Abel une telle sentence? Pourquoi la peine capitale avec exécution immédiate semble être la peine appropriée aux yeux de Caïn? Quel mal Abel a-t-il fait qui puisse faire que seule la mort est ce qu'il mérite? Ceux qui ont étudié le droit pénal disent la sanction doit toujours être proportionnelle et adaptée à la faute, au manquement ou au dérapage dans les comportements. Mais qu'a fait Abel de si grave pour que celui qui l'a vu naître, celui qui l'appelle son frère, décide qu'il doit cesser de vivre. Le début du chapitre nous donne quelques éléments. Le verset 2 nous dit, l'un était berger, gardien des troupeaux, l'autre était laboureur, un homme qui travaillait la terre. La fourchette allant du verset 3 au verset 5, nous parle de l'offrande que chacun d'eux a eu à offrir à l'Éternel. Rien ne nous est dit de précis. Était-ce l'Éternel qui leur avait demandé d'offrir? Cela n'est pas dit. Était-ce une initiative personnelle prise collectivement? Rien n'est dit. Toujours est-il que chacun d'eux a eu à offrir quelque chose et quelque chose attaché à son activité. Mais toujours la même fourchette du verset 3 à 5 nous montre qu'en même temps que chacun d'eux a posé un acte ayant comme désir de plaire à Dieu, il y a eu différence dans la façon dont l'offrande de l'un et de l'autre ont été gérées. La Bible a dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, la personne, et puis il porta aussi un regard favorable sur son offrande. Il y a beaucoup à dire là, mais aujourd'hui ce n'est pas notre sujet. Mais la Bible ajoute aussi, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, et il ne porta pas aussi un regard favorable sur son offrande. Avant de regarder ce que nous lui apportons, Dieu nous regarde d'abord nous-mêmes. C'est dans la mesure où il nous approuve, qu'il approuve aussi notre offrande ou notre service. Une offrande est acceptée. L'autre l'est moins, pour ne pas dire, l'autre n'est pas accepté. Et le verset 5 nous parle d'une réaction. La Bible dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La version des Semeurs dit, Caïn fut dans une grande colère et son visage s'assombrit, devint sombre. J'aime deux traductions dynamiques de ce verset. La première traduction, c'est celle du français courant, qui dit, Caïn en éprouva un profond dépit et il faisait triste mine. Il éprouva un profond dépit. Le dépit, c'est un sentiment de vive contrariété, mêlé de colère que l'on ressent lorsqu'on a subi une déception, une blessure qui touche notre amour propre, ou l'image que nous avons de nous-mêmes. L'autre version dynamique que j'ai aimée, c'est une version anglophone, NIV, mais cette version, c'est plus une version qu'on utilise pour les enfants de l'école du dimanche. Cette version dit en anglais, This made Cain angry. He did not think God was being fair. La Bible dit que il fut fâché et il arriva à la conclusion, Dieu est injuste. C'est-à-dire, pourquoi a-t-il accepté son offrande? Et pourquoi n'a-t-il pas accepté mon offrande? Caïn n'en revient pas. Caïn se pose sûrement la question, pourquoi Dieu, Yahvé, apprécie-t-il mon frère et son offrande? Et pourquoi ne m'apprécie-t-il pas? Pourquoi regarde-t-il avec dégoût et même dédain mon offrande, alors qu'il semble qu'il a un empressement à recevoir l'offrande d'Abel? Voilà le nœud du problème. Et c'est de là que partent tous les problèmes. Deux personnes, des humains, ayant la même nature, les mêmes aspirations, les mêmes besoins sentimentaux et émotionnels, mais qui reçoivent un traitement différent. Qui dans cette salle, qui en dehors, qui nous suit au travers des médias, peut dire, moi je n'aime pas qu'on m'aime. J'aime pas qu'on apprécie ce que j'ai fait. Chaque homme aime qu'on dise du bien de lui. Chaque homme, c'est dans la nature de l'homme. Et des fois même, on aime avoir ces choses en exclusivité. Que je puisse les avoir, moi et moi seul. Comme je le disais, deux personnes, deux humains, ayant la même nature, les mêmes aspirations et les mêmes besoins. L'un a son offrande acceptée, cela les réjouit. Cela lui procure sûrement un bien-être intérieur, et même s'il n'oserait pas le reconnaître ouvertement, cela flatte son ego. Cela flatte l'idée et la valeur qu'il s'est fait de lui-même. L'autre a son offrande non acceptée, et pire encore, non pas en cachette, son offrande est non acceptée, mais devant l'autre. Il aurait pu mieux le supporter s'il était seul, s'il est rejeté de son offrande. C'était fait, Dieu seul est témoin. Mais voilà, Dieu, entre guillemets, a commis la maladresse de rejeter son offrande et d'accepter l'offrande de l'autre devant lui. La joie d'Abel ne fait pas la joie de Caïn. Quand Abel voit son offrande acceptée, peut-être qu'il élève les mains et dit, Yahweh, merci. Qu'est-ce que je t'aime, Yahweh. Et dans les regards de Caïn, tout a changé. Il se sent mal à l'aise à cause de cela. Il ne peut s'empêcher de faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Comparer la manière dont son offrande a été traitée avec la manière dont l'offrande de l'autre a été traitée. Oh, les comparaisons. Peut-être même que Caïn se pose la question, pourquoi Yahweh ne m'a-t-il pas regardé favorablement comme personne? Et pourquoi n'a-t-il pas aussi regardé favorablement mon offrande? Pourquoi a-t-il regardé favorablement Abel comme personne? Et pourquoi a-t-il regardé favorablement l'offrande d'Abel? Qu'est-ce que l'offrande d'Abel a de spécial pour être acceptée? Et qu'est-ce que mon offrande a ou avait en moi qui a fait qu'elle ne puisse pas être acceptée? Qu'a-t-il fait que je n'ai pas pu faire ou qu'a-t-il fait que je ne pouvais pas faire pour que mon offrande aussi puisse subir le même traitement? Autant il se pose de bonnes questions, Caïn, autant l'on peut voir à sa conclusion, démontré par les actes qu'il a posés, qu'il est arrivé aux mauvaises conclusions. Il fut très irrité et son visage devient triste. Son visage s'assombrit. La conclusion de Caïn est double. Il y a deux fautifs. Le premier fautif, c'est Dieu. Le deuxième fautif aux yeux de Caïn, c'est Abel. Mais voilà, le premier fautif, il est tellement fort qu'on ne peut le combattre. Il est tellement grand que je ne sais entrer en hostilité avec lui. Mais le deuxième fautif, lui, je peux le combattre. Alors il décide. Lui, il doit disparaître. Là apparaît pour la première fois dans la jeune histoire de l'humanité un sentiment qui a obtenu son certificat de naissance ce jour-là. Et depuis lors, ce sentiment fête ses anniversaires de manière ininterrompue. Ce sentiment souffle plusieurs fois aux bougies pour fêter ses anniversaires. La jalousie. La jalousie est née ce jour-là. La jalousie a eu son certificat de naissance ce jour-là. Et depuis lors, elle a grandi. Elle grandit encore. Chaque fois qu'elle fête ses anniversaires, elle invite le plus grand nombre. Venez, car j'existe encore. La jalousie, qu'est-ce donc? Avant d'essayer de définir c'est quoi la jalousie, qui est le sentiment qui a été à la base de ses premiers crimes. J'aimerais parler de deux sentiments qui sont proches de la jalousie, mais qui lui sont différents. Je suis même tenté de dire qu'ils sont tant soit peu positifs. Le premier sentiment, c'est l'émulation. L'émulation, c'est un sentiment proche de la jalousie, mais elle est positive. Pourquoi? C'est le sentiment qui pousse à égaler ou à surpasser quelqu'un en mérite par un travail intense, parce qu'on les prend comme modèle. C'est un sentiment positif. Un athlète voit un autre battre les records du monde, du 100 mètres, il dit, je le ferai aussi. Il n'a rien contre cet autre athlète. Mais cet athlète lui sert de modèle, de référence. Nous voyons l'émulation chez les jeunes gens. Ils rentrent dans quelques barreaux, où il suit à la télé un procès, il y a un avocat qui défend une cause, une plaidoirie fantastique. Il dit, ah, j'aimerais un jour plaider comme cet homme. Il n'y a rien de négatif là. Quelqu'un vous stimule. Vous écoutez un prédicateur. Je me rappelle dans mes jeunes années dans le ministère, je m'asseyais là, j'écoutais les pasteurs, je disais, j'aimerais prêcher comme cet homme. J'essayais à la cité de gober, de bloquer ces phrases et de les restituer J'essaie même de reproduire son gestuel. À force de vouloir l'imiter, j'ai commencé même à avoir ces tics. De telle sorte qu'un jour, quelqu'un à la cité m'a appelé Roland Vernon. L'émulation n'est pas négative. Elle est positive. J'ai eu des frères qui m'ont dit, ils ont vu en son temps Papa Noé conduire la louange et l'adoration. L'un habite Baroumou. Il a dit, j'aimerais faire comme lui. Il m'a même dit plus tard, il a approché. Comment tu fais pour exceller? Comment tu fais? Rien de négatif dans cela. Même la Bible nous donne plusieurs exemples d'émulation. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 9, alors que le prophète Élie devait s'en aller dans la présence de Dieu, un jeune homme a dit que j'ai sur moi la double portion de ton esprit. Il a vu travailler, il a vu faire des choses. Il dit, j'aimerais avoir les genres de charisme que toi tu as. J'aimerais dans mon ministère reproduire les capacités que toi tu as eues à reproduire. Aucune jalousie, aucune chose négative. Des gens ont vu Christ travailler un jour. Ils l'ont suivi, ils l'ont dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils l'ont vu faire des miracles, multiplier les pains. Ils ont dit, nous voulons aussi faire ces choses. Montre-nous les secrets. Tu es tellement fantastique. Dans Jean chapitre 11, verset 1, nous voyons aussi l'émulation dans les chefs des disciples. Ils ont vu Christ prier. Et ils ont vu sa prière être spéciale, surtout avoir des résultats spéciaux. Ils ont dit, apprends-nous à prier. L'original dit, aide-nous à prier comme toi tu pries. Nous voulons atteindre les niveaux de prière que toi tu as atteints. Seigneur, donne-nous des modèles en politique. Donne-nous des modèles de couples stables. Donne-nous des modèles de jeunes gens intègres, de telle sorte que les autres pourront dire, j'aimerais être comme lui. J'aimerais faire comme lui. Mais un autre sentiment proche, mais qui est aussi positif, c'est toujours la jalousie. Mais la jalousie qui pousse une personne à vouer un amour possessif vis-à-vis d'une autre personne et veut en faire son exclusivité. On ne veut pas partager cette personne avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment, on le retrouve dans la vie du couple. Une femme qui veut avoir son mari pour elle, et pour elle seule. Dis-nous, c'est ça qui mentionne. Dis-nous, c'est ça qui est compliment. C'est ça qui est un exclusivité, ces choses, elles me sont réservées. J'ai roulé un jour avec une dame, et dit, pasteur, moi, mon mari, il faudra que je mette des aiguilles. Parce qu'il a tendance toujours à se retourner, à regarder. Tant qu'il regarde un homme, il n'y a aucun problème. Et quand il a regardé une femme, elle souffre. Cette forme positive de la jalousie, même notre Dieu l'éprouve. Dans Joël chapitre 2, verset 18, parlant de notre Dieu, il est dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. Dans Exode chapitre 20, verset 5, lui-même, parlant au peuple sur la montagne des Sinaï, dira, tu ne te prosterneras point devant elle. Il voulait parler des statues et des idoles. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, il dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Lui-même le dit. Mais la jalousie dont il est question ici, celle qui a fait d'un frère sorti du même sang, l'ennemi, et l'assassin de son frère est un sentiment négatif. C'est un sentiment qui nous fait souffrir de voir l'autre avoir aussi ce que nous aurions voulu avoir, nous et nous seuls en exclusivité. Elle nous fait souffrir de voir l'autre avoir plus que nous. Qualitativement ou quantitativement. Si d'aventure l'autre avait moins, cela ne ferait pas de problème. Mais les problèmes, il a plus. Nous en parlerons encore dimanche prochain. L'élite d'Israël rentre du combat. Et les femmes se mettent à chanter. Saül a tué ses 1000. Et subitement, une autre phrase est ajoutée. David a tué ses 10 000. Et je peux vous assurer, si on avait chanté l'inverse, il n'y aurait pas eu un problème. Si les femmes avaient chanté, Saül a tué ses 10 000, mais le petit David a tué ses 1000, il aurait été souriant, les grands rois. Mais le grand problème, on a dit, lui, le grand, a tué 1000. Et le petit, il a tué 10 000. La Bible dit, dès cet instant, Saül regarda David d'un mauvais œil et il fut irrité. Il dit, mais il ne lui manque plus que la royauté. La jalousie, c'est un sentiment qui nous pousse à envier les succès d'autrui et à en éprouver du dépit, des malaises et un dérangement, un pincement, une souffrance et même une souffrance atroce. La jalousie rend même malade physiquement. Crise d'estomac, hypertension, migraine, simplement à cause d'un sentiment qu'on a invité dans son cœur. La jalousie, lorsqu'elle est là, celui ou celle qu'il a dans son cœur a tendance à croire que deux possibilités peuvent l'aider à être soulagé, à être guéri de la jalousie. Premièrement, la perte des avantages par l'autre. J'ai entendu une fois une jeune fille parlant d'une autre. Elle avait été fiancée. Les relations avaient beaucoup progressé. Son fiancé semblait dire que c'était un gros morceau. Et puis finalement, les fiançailles ont volé en éclat. J'ai suivi une conversation entre deux jeunes filles. L'une a dit, « Heureusement que ce n'est pas allé jusqu'au bout. Oh, si c'était allé au bout, tel qu'on la connaît, est-ce qu'on allait encore parler? Je me suis posé la question ce matin, y a-t-il un jaloux? Y a-t-il quelqu'un, soit souvent ou de temps en temps, son cœur est visité par ses sentiments? Moi-même, quand je posais la question, je savais qu'il n'y en avait pas, surtout à la borne. Si l'un des moyens pour les jaloux d'être guéri, c'est la perte des avantages par l'autre, le deuxième moyen pour les jaloux d'être guéri, c'est que lui-même puisse gagner des avantages qui surpassent celles de l'autre. Bon. Même si lui continue à voir, que je puisse avoir plus et que je passe devant lui, que je lui montre. Je pensais que Dieu est le seul à voir. La jalousie est mauvaise. Elle est vilaine. Elle est nocive. Partout où on la laisse germer, elle produit deux sortes d'effets. Elle détruit. Elle abaisse et déforme celui ou celle qui l'héberge dans son cœur. Les jaloux ou la jalouse se sentent diminués par la supériorité de l'autre. Les jaloux ou la jalouse croient que les avantages de l'autre ainsi que son bonheur lui font ombrage. Les jaloux, toujours, la première victime de sa jalousie. Quelqu'un a dit la jalousie gronge comme un cancer. Elle remplit les cœurs de ressentiments, d'amertume et même de honte inavouée. La jalousie, quand elle nous domine, elle nous pousse même à tuer par la langue. Les jaloux, ils se rient du malheur des autres. Leur infortune et leur malheur apparaissent à son âme comme des caresses et de consolation. Il est jaloux, il pleure, il gémit, et même il souffre quand les autres réussissent, quand les autres vont de l'avant, quand les autres sont appréciés. Quelqu'un a dit, comme des termites nés dans les bois, mais qui mangent les bois dans lesquels ils sont nés, de même la jalousie née dans le cœur humain tourmente en priorité le cœur où elle grandit. Vilain sentiment. Mais pourtant, sentiment qui se retrouve dans nos cœurs. Sentiment qui normalement aurait dû se retrouver en dehors de l'enclos appelé Église. Sentiment qui aurait dû se retrouver normalement là où il y a les sans-Dieu. Mais malheureusement, sentiment qui se retrouve aussi dans les cœurs de ceux ou celles qui se disent enfants de Dieu. Deuxième chose que la jalousie fait aussi que celui ou celle qui l'héberge devient un destructeur. Donc premièrement, elle vous détruit vous-même. Deuxièmement, elle fait de vous un destructeur. Elle détruit les rapports humains ou les rapports sociaux. Comme pour Caïn, la jalousie attire toujours avec elle sa sœur cadette, l'hypocrisie. Là où il y a la jalousie, l'on devient faux. L'on n'est plus transparent. La jalousie appelle aussi et toujours la médisance, c'est-à-dire dire du mal, et des fois du mal gratuitement. Mais des fois, la jalousie va plus loin, elle peut aller jusqu'à la calomnie. La différence entre la médisance et la calomnie, c'est que la médisance est basée des fois sur du vrai. J'ai appris que telle personne a eu à faire une telle mauvaise chose. Mais je trouve un grand plaisir à en parler partout. Moi, j'ai appris dans ma marche avec Dieu à quitter cette profession d'informer des défaites des autres. J'aime annoncer les victoires. Quand on est venu dire à David, Jonathan est mort, il dit, n'en parlez même pas aux Philistins. Que les Philistins ne la prennent pas. Mais elle entraîne jusqu'à la calomnie. Ce qui est grave avec la calomnie, c'est que la calomnie est basée sur du faux. Mais vous savez, quand on est jaloux des fois, toutes les armes sont meilleures pour détruire l'autre. Aujourd'hui, dans notre monde politique, on se détruit via médias interposés. On n'aime pas l'autre, on injecte des informations dans tel journal, sur Internet, et vous savez, les démentir est toujours difficile. Quelqu'un est sali, on sait ce qu'on écrit est faux. Tel politicien a 8 femmes, tu sais que c'est faux, mais tu veux les discréditer. Surtout quand il y a compétition, élection qui arrive, nous entendrons des choses. La jalousie, elle est sournoise. On a parfois difficile à reconnaître sa présence. Très peu admettent la voir comme locataire dans leur cœur. Rarement les hommes et les femmes disent « Je suis jaloux de telle ou de telle personne ». En général, l'on cache sa jalousie vis-à-vis des autres et malheureusement, même vis-à-vis de soi-même. Vilain sentiment. Mais sentiment qui s'attache à la nature de l'homme dès le berceau. Sentiment qui fait de l'homme un destructeur, un assassin. Abel. Ces coups te viennent de celui que tu aimes, de celui que tu appelles ton frère. Mais autant toi tu l'aimes, autant lui il a cessé de t'aimer. Tu ne lui as rien fait. J'ai souvent vu, même dans ma marche avec Dieu, l'existence de ces sentiments dans mon cœur. Je l'ai dit à ma honte. Je me suis retrouvé un moment à l'est du pays. Je prêchais l'évangile. Durant plusieurs semaines, et des grandes foules venaient. Le soir, je prêchais. Mardi, mercredi, jeudi, les avant-midi, j'avais des entretiens. De 9h jusqu'à 13h. Je peux vous assurer, quand j'arrivais à 9h, il y avait des files
de 100, 150 personnes. On n'ose pas le dire à haute voix, mais ça flante l'ego. Je suis utile à quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur de l'église vient me dire, écoute, pasteur, vendredi, tu ne prêches pas, tu vas continuer samedi. Il y a un monsieur venu du fin fond de Ouvira, hein, si tu peux le laisser prêcher. La première impression que j'ai vue quand cet homme est rentré à l'église, je me suis demandé, il sortait du lit directement jusqu'à la chaire ou quoi? Des habits froissés, un costume retourné comme ça. Les cheveux, je me demandais si la dernière fois qu'il s'est coiffé, ça faisait 100 ans. Et je dois vous assurer, il ne sentait pas bon. Mais je peux vous assurer, quand il a ouvert la bouche pour prêcher, quand il a ouvert la bouche, j'ai pensé à ces paroles des disciples d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il parlait? Et le lendemain samedi, je suis arrivé à mon bureau, qui était là, on lui a donné un autre bureau. J'ai senti que la grâce a changé de direction. Devant mon bureau, il n'y avait personne. Tout le monde était allé de l'autre côté. Je me souviens vers les 10h30, j'ai dû sortir comme pour leur dire, peut-être vous avez l'impression que je ne suis pas venu. Juste faire un tour, une manière de dire, Nazalie! Et je suis rentré, il n'y avait rien encore. Je l'ai dit à ma honte. Au soir, un jeune homme m'a approché du pasteur. Ce prédicateur, il est terrible, hein? J'ai dit à ces jeunes hommes, jeunes gens, il faut faire attention aux gens qui viennent du village. Hein. On ne sait jamais, il peut avoir des ficelles autour des reins. Ce soir-là, quand je suis rentré dans ma chambre, j'avais honte de moi-même. Enfant de Dieu, prédicateur de l'Évangile. Je commence à me dire, mais Roland, où est le mal si l'Évangile avance par lui? Où est le mal? Abel doit mourir. Pourquoi l'offrande d'Abel est acceptée? Abel, si tu me déranges. Abel, si je te donne un coup et que tu cesses d'exister, désormais mes offrandes, je les présenterai seules. Et même si Dieu ne les accepte pas, je n'aurai pas à souffrir du spectacle d'une offrande acceptée. Désormais, mes échecs, je les vivrai seul. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, guéris-moi de la jalousie? La jalousie, elle est là dans le lieu du travail. La jalousie, elle est là, même dans nos familles. Ma sœur est mieux traitée que moi. Les parents sont plus prompts à donner qu'à l'autre. La jalousie a fait que des frères décident de vendre leurs jeunes frères. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Tuons-les. Et ils l'ont vendu. Et ils ont amené un habit plein de sang. Papa, Joseph est mort. Et durant plusieurs années, ils ont vécu apparemment normalement, comme si de rien n'était. Dans le psaume 139, versets 7 à 12, David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour
et les ténèbres comme la lumière. S'il est vrai que la jalousie est un mal dangereux, il est aussi vrai que l'on peut en guérir. Et le premier pas pour en guérir est de reconnaître qu'on en souffre, de reconnaître qu'elle habite dans notre cœur, de reconnaître qu'elle s'est enracinée. Peut-être même dans mon cœur ou dans ton cœur, elle est dans un stade d'incubation simplement. Elle a atteint tes émotions et tes sentiments. Ne les laisse pas aller à un stade élevé où elle touche ta langue et fait de toi un destructeur. Ne laisse pas ces sentiments grandir jusqu'à toucher ta main et à mettre une pierre dessus et à la cogner sur la tête de ton frère. Dieu a dit à Caïn, quand il a vu ses sentiments germer, il lui a dit, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Dieu l'a vu. Mais il dit, mais toi domine sur lui, comme pour dire, tu as la capacité de vaincre cela. Toi domine sur lui. Une autre version dit, il désire te dominer, mais c'est en toi d'en être le maître. Et en Jésus-Christ, qui nous a changés, nous avons la possibilité de dominer ses sentiments. Quand il a tué son frère, et que Dieu lui pose la question, où est ton frère? À la jalousie s'ajoutent les mensonges. Suis-je le gardien de mon frère? Seigneur, je ne tuerai pas Abel, parce qu'il est mon frère. Baissons nos têtes dans la prière. J'aurais voulu lancer un appel, mais je me sens limité de le faire. J'aimerais simplement à lui de cette parole que nous puissions prier. Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, règne dans mes émotions, règne dans mes sentiments. Seigneur, je ne tuerai pas Abel. Je ne tuerai pas Abel. Je n'aimerais pas ôter la vie d'Abel. Nous allons simplement chanter ces cantiques et puis nous allons répandre nos cœurs un moment devant le Seigneur. Règne en moi.
Règne en moi.
Roi puissant, règne en moi.
Roi puissant, règne en moi.
Règne en moi.
Puissant,
à plus d'avantage
que
moi. Alors cette équipe de football, à part de me réjouir. Quand je suis ignoré de tribulé. Là en famille.
Yeah.
Parle-lui de toi. Parle-lui de toi. Parle-lui de toi. Seigneur, où fuirais-je loin de ta face? Ces choses sont sorties de ma bouche. Mais tu sais combien moi-même, je suis appelé jour après jour à lutter contre ces sentiments. Comme un monstre qui aime prendre possession de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à les dominer. Car tu as dit à Caïn, domine sur lui. Domine sur lui. Aide-moi à dominer sur lui. Aide-moi à dominer sur lui. Aide-moi à dominer sur lui.
Aide-moi, Seigneur, et que seule ta volonté soit faite à jamais dans ma vie. Merci, Seigneur, de nous rappeler que ce sentiment qu'est la jalousie, sentiment subtil, Seigneur, très souvent, nous l'éprouvons. Mais Seigneur, donne-nous la force d'aller au-delà. Donne-nous la force de dominer sur lui et que le péché ne s'installe pas en nous. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous voulons te ressembler. Nous voulons, Seigneur, être comme toi. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous voulons participer avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes, à l'avancement de ton œuvre. Je te prie de bénir la main qui donne. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont le désir de donner et qui n'ont pas de quoi donner. Merci Seigneur pour ce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie. Et Seigneur, permets-leur aussi de participer à ton œuvre en donnant de leur bien, de ce qu'ils ont reçu de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oui, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, que rêve. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends.
Blanc, plus blanc,
plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau.
Blanc,
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 Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.